économiste, et que économiste des problèmes d'économie internationale, d'économie géographique, de localisation des activités, je ne fais pas que de l'économie théorique, je fais aussi de l'économie empirique, c'est-à-dire que j'essaye, plus ou moins, avec toutes les difficultés, de mesurer ce dont on parle. Donc, il m'est important que ce va-et-vient entre la théorie et les faits, et en tout cas l'économie appliquée, telle qu'on a pu la mesurer, soit aussi rendue, même si nous avons aussi à discuter de choses de catégories qui peuvent apparaître plus abstraites. Donc, sur toute une série de choses, les économistes, et d'ailleurs les sociologues ou d'autres, peuvent être d'accord sur le fait qu'il y a bien un basculement du mode de régulation de l'économie capitaliste vers un autre modèle qu'on appelle le post-fordisme, parce qu'on ne sait pas très bien l'appeler, et que ce basculement repose sur un certain nombre de changements structurels qui ont caractérisé la période fin des années 70, début des années 80, tu en as parlé, c'est effectivement la domination des services, des activités immatérielles, la modification de consommation avec un contenu beaucoup plus immatériel, symbolique, une versatilité accrue des comportements des consommateurs, qui est quand même un certain nombre de festivités nouveaux, des changements organisationnels dans les entreprises, la diffusion des technologies de l'information et de la communication, j'en ai parlé, l'intensification de l'effort d'innovation, qu'on peut mesurer par les dépenses de recherche et développement, les dépôts de brevets, ça c'est, je ne vais pas vous en donner des chiffres, mais ça s'est absolument accru depuis la fin des années 70. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du basculement, et ce basculement, économie du savoir, économie numérique, du mal à recevoir une clarification et un consensus, disons, de la part de ceux qui observent ce changement. On parle aussi de capitalisme cognitif pour certains, en parlant de capitalisme cognitif et de connaissance et d'information, on met en effet l'accent sur le rôle clé de la connaissance et du savoir et de l'information, et j'y reviendrai sur la nécessité de les distinguer dans le fonctionnement de cette économie contemporaine. Donc, l'objectif de cette communication qui repose sur deux papiers que vous avez pu avoir sur le site, un qui est sur la tendance à la mondialisation et à la polarisation des activités d'innovation, et puis l'autre sur les problèmes de fragmentation des processus productifs à l'échelle internationale. Et l'objectif, donc, c'est, dans une première partie, de faire une clarification, mais il me semble-t-il nécessaire, parce qu'elle converge, elle va faciliter la convergence entre nous aussi, et je pense qu'il est nécessaire de revenir sur la notion d'économie de la connaissance, son lien avec l'information, avec l'infrastructure informationnelle. Deuxièmement, quelles sont les implications de cette économie de la connaissance pour la localisation des activités intensives en connaissance et de leur polarisation dans l'espace, et pourquoi polariser et se concentrer. Et enfin, la question de inverse, en quelque sorte, de la dispersion, de la fragmentation des processus productifs et les interprétations, disons, analytiques qu'on peut en donner. Alors moi, je ne vais pas me placer du point de vue du travailleur cognitif, bien que j'en parlerai, mais je me place du point de vue de la firme à son territoire, et je parlerai de changement, de mode de division du travail, de logique de division du travail au sein et entre les firmes, c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau mode de division du travail que nous avons appelé avec mon collègue Moati la division cognitive du travail, par opposition, mais vous allez voir que c'est une opposition uniquement pédagogique, car dans la réalité, pour nous, il y a complémentarité entre ces deux modes, c'est-à-dire la division taylorienne ou technique du travail, et comment cette division technique ou taylorienne du travail est réaménagée et rendue compétitive grâce précisément à ces technologies de la formation et de la communication, en complémentarité, pas seulement en dualité, ça c'est vraiment, ça me semble important, en complémentarité avec le principe de division cognitive du point de vue des firmes et du rapport des firmes au territoire. Donc, première partie, quelques problèmes de définition, de caractérisation de l'économie de la connaissance. Peut-être que je vais dire des choses que vous connaissez, que tout le monde connaît, mais moi, il me semble important d'essayer de, même si on peut être en désaccord, au clair sur un certain nombre de questions. Il y a trois points, c'est la question, dans cette première partie, du lien entre le savoir, l'information et la connaissance, et les technologies, les infrastructures qui font circuler ces informations. Le deuxième point, c'est le rapport entre l'information Le travailleur qui utilise cette information, donc là on reviendra sur le travailleur immatériel, ou parle du travailleur immatériel, je crois que Tony Negri parle aussi dans son bouquin Empire de travail immatériel, il insiste beaucoup sur cette notion de travail immatériel, peu importe, moi je parlerai de travail cognitif pour prendre le lien avec ce qui a été dit précédemment, mais c'est, me semble-t-il, important, donc information, travail, connaissance, donc et travail cognitif et compte dans son intervention de manière un peu sibylline, c'est cette question de qu'est-ce qui est finalement valable, au sens de valide, dans l'économie de la connaissance. Est-ce que toi, travailleur cognitif, tu es valable si tu n'es pas validé par le marché ou par délégation, par l'État, en délégation d'un certain nombre d'oligopoles cognitifs ou d'oligopoles de marché? En quelque sorte, quel est le lien, ça gorge aussi, me semble intéressant de ce point de vue-là, quel est le lien, le fait d'être un travailleur intelligent, intelligence, Gorge parle de travail précognitif, et quel est le lien, le fait d'être et de mériter en tant que tel une rémunération un salarié, on n'existe pas économiquement dans cette économie-là si on n'est pas capté, par, validé par le marché. Je ne parle pas forcément de marchandisation, c'est assez compliqué, mais que ce soit les droits de propriété, la mise en œuvre de ce que tu appelles le travail dans un espace ou dans une durée que continue, me semble être une question de validation par le marché, c'est-à-dire de réalisation. Au fond, il y a des aspects positifs et négatifs qu'il faut mettre en œuvre. En tout cas, en éclaircir. Alors, parce que je pense que on peut revenir dans la discussion, mais je ne vais pas m'étaler beaucoup. Sur le premier point, par information de connaissance, une clarification nécessaire. Il me semble important de faire cette clarification parce que précisément, on a une espèce de confusion, claquement de la bulle, on a l'impression que c'est le système qui est parti avec, la bulle Internet. On parle de toute une série de choses, et il me semble que l'économie de la connaissance... Il y a un ouvrage pédagogique qui est clair, qui est celui de Dominique Forêt, qui s'appelle « Chez Repères, des découvertes, la nouvelle économie ». Il y a une première clarification à faire, c'est que l'économie de la connaissance ne peut pas se réduire ni aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire elle ne peut pas se réduire à la formation elle-même. Les technologies de l'information et de la communication ne constituent qu'un support de la transmission de la connaissance, et la confusion en fait entre information et connaissance provient d'un trémique. Les économistes classiques, néoclassiques, Arrow, distinction entre économie, information et connaissance. Pour lui, les savoirs sont produits par un secteur d'activité spécialisé qui combine dans la production, qui combine du travail qualifié des ingénieurs, si vous voulez, des chercheurs, etc., et du capital, et qui donne de la production d'informations qui est échangée sur un marché. Et on a trois propriétés clés de cette connaissance-information échangée sur le marché. Propriété qu'on va utiliser, qui est importante d'un point de vue, qui sont importantes d'un point de vue unique, dès lors qu'on traite d'économie de la connaissance. L'information ici, est incontrôlable par son producteur, elle produit donc ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire des retombées, mais des retombées dont ne profite pas l'investisseur, celui qui dépense de l'argent, 1 euro pour faire de la recherche. Il n'est pas sûr de récupérer cela, c'est peut-être la collectivité, la métropole, qui est bouchons, soit elle ne se distribue pas dans l'usage, donc il y a un problème d'évaluation du prix de cette connaissance ou de cette information. Et troisième propriété, elle est cumulative, cette connaissance ou cette information, elle est cumulative, donc elle est localisée, bien entendu, elle peut être délocalisée, on y reviendra, mais elle est cumulative, elle est idiosyncratique, même si elle peut, se transformer, se délocaliser et participer à l'hybridation, dont tu as parlé à la fin. Donc, la connaissance ou l'information vue d'un point de vue économique confondu est vue comme un bien public qui pose un problème, un dilemme, et celui-là est le suivant, c'est que il faut que cette diffusion soit large, l'information et la connaissance, soit large pour qu'elle assure une production encore plus large. Et terme du dilemme, le deuxième terme, c'est que les agents privés, les firmes, ne sont pas incités à investir dans la production de cette connaissance, de ce savoir, parce que le rendement social est plus élevé que le rendement privé, et il n'y a pas d'intérêt pour elles si elles ne peuvent pas s'approprier totalement les rendements, elles n'y investissent pas, d'où le rôle de l'État, etc., etc. Bon, donc ce dilemme-là, c'est un dilemme bien connu, mais ça montre simplement une chose, c'est pour ça que je passe par là, c'est qu'on se trouve à l'aval de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire à ce moment librement, ce bien public. Mais ce bien public, pour être produit, nécessite un processus très long et lent, et qui met en œuvre un certain nombre d'actions, les travailleurs bien entendu, et en tout cas, il y a un processus de transformation qui se passe, de transformation de cette intelligence qui est propre à chaque individu, pour qu'il y ait un processus de validation par le marché et que ça puisse fonctionner par le marché. Donc ça, c'est le premier point, c'est savoir information et que ça n'est pas la même chose. Ça n'est d'autant plus pas la même chose que depuis 20 ans, beaucoup de travaux d'économistes, on doit beaucoup aux économistes italiens évolutionnistes en particulier, d'avoir fait cette investigation sur, justement, des flux de messages qui existent indépendamment des individus, indépendamment. La connaissance, quant à elle, implique une activité cognitive du travailleur. Et cette activité cognitive du travailleur ou du collectif de travail consiste à utiliser l'information pour produire de nouvelles connaissances. La connaissance est donc attachée aux individus puisqu'elle repose sur leurs facultés subjectives, tu l'as dit. La deuxième distinction au fond, la notion de connaissance et la notion d'information peuvent se rejoindre. La connaissance, elle est d'abord, elle est tacite. Polanyi parle de connaissance tacite au sens où nous savons toujours plus que ce que nous pouvons en dire. Ça, c'est la connaissance tacite qui se met en œuvre dans l'action. Et puis, vous avez la connaissance codifiée qui est connaissance tacite convertie en message, convertissable en signaux d'information. Et puis, vous avez un problème économique qui est attaché à cette distinction, c'est que le problème de l'économie de l'information, c'est sa production, je l'ai dit tout à l'heure, et sa économie de la connaissance, c'est sa reproduction. Et sa reproduction passe toujours par un processus d'apprentissage. Et donc, qui dit processus d'apprentissage convoque la question du mode de division du travail qui préside à l'organisation de cette production collective de la connaissance et du savoir. Donc, il m'a semblé utile de faire cette première distinction, formation et connaissance, cette première distinction donne lieu à une seconde qui est quel est le rôle d'intermédiation que joue le travailleur cognitif ou le travailleur. D'abord, l'information, comme on l'a vu, est une série de messages qui peuvent exister d'ailleurs à des coûts décroissants, asymptotiquement nuls même. Avec les technologies de l'information et de la communication, elles sont de plus en plus aisées, bien entendu. Mais le problème de la transformation de l'information en connaissance, c'est pas un problème direct, c'est un problème qui est intermédié par processus d'apprentissage nécessitant des capacités d'absorption dans des collectifs ou pour des individus. Ces capacités d'absorption, ce sont des, au sens de Cohen et Lewinthal, qui sont deux économistes qui ont beaucoup travaillé sur ces questions de capacité d'absorption de la connaissance, là, c'est l'apprentissage suffisante pour mobiliser en interne les savoirs créés ailleurs. Donc l'information, elle existe, mais il faut avoir cette capacité d'absorption. D'où cette distinction, en effet, entre intelligence et connaissance, énoncée par Gors. Les connaissances sont, finalement, chez Gors, assez proches de l'information, finalement, de sont codifiées. Ce sont des fragments spécialisés dont les individus qui les utilisent ignorent l'origine intrinsèque. Il dit que la connaissance, au sens pur de la production attachée à l'individu, convoque la compétence, c'est-à-dire la nécessité pour les agents, les individus dans leur ensemble, de se spécialiser sur des blocs de savoir homogènes. Et la spécialisation sur les blocs de savoir homogènes est liée au fait que, à mesure que l'économie du savoir se développe, de manière exponentielle, eh bien, elle se complexifie, les connaissances se complexifient, et de nouvelles disciplines se forment, et ça nécessite, en effet, la spécialisation et des combinatoires complémentaires, c'est-à-dire la mise en œuvre de divisions du travail fondées sur une liaison de blocs de savoir homogènes. Ce qui n'est pas dans ce que Patrick a décrit comme étant la division technique du travail, dans le cadre taylorien, ou dans la manifeste décrite par Adam Smith. Voilà. Donc, l'idée de base, si vous voulez, c'est que cette information, elle est... la fracture numérique n'a aucun intérêt, pour moi, en tous les cas, parce qu'on peut connecter tant de pays qu'on voudra, si il n'y a pas de capacité d'absorption qui, là, mobilise la question de l'éducation, la question de la connaissance triple dimension, innovation, formation, éducation... et aussi les supports, eh bien, vous pouvez réduire tout ce que vous voulez comme fracture numérique, vous ne ferez pas un réinclus de la division internationale du travail, qui est exclue depuis la période post-fordienne précisément, qui a été marginalisée. D'où la question clé de savoir ce qu'est les contours, les frontières de cette économie du savoir. Et pour connaître les frontières de cette économie du savoir, validation par le marché. Cette validation par le marché est tout à fait importante, parce que précisément, l'inquiétude et l'obsession des oligopoles cognitifs, je parle d'oligopoles cognitifs pour m'arrêter là, c'est-à-dire des grands groupes de leur activité, l'investissement de la recherche dans le développement, la pharmacie, l'électronique, l'informatique, etc., qui font, pour lesquels c'est une obsession, car en effet, ils mettent des milliards de dollars ou d'euros d'investissement, il faut bien qu'ils en récupèrent les rendements, et donc d'où le processus de transformation d'une partie des savoirs requis en compétences ou en qualifications répertoriées et rémunérées dans un cadre de rapport de production. Donc en quelque sorte, le travailleur cognitif, s'il est tout seul dans son coin, pour moi, il n'est pas un travailleur cognitif inséré dans l'économie de la connaissance. Il n'est pas validé en tant que tel. Il peut être une force de contestation potentielle pour l'économie de la connaissance, mais il est hors économie de la connaissance. D'ailleurs, on a bien ce processus tout à fait fort de polarisation.